Josué au chapitre 7, pour que ce ne soit pas trop long, je vais lire le 1 à 5, puis ensuite je passerai directement au verset 13. Donc Josué chapitre 7, les 5 premiers versets, et puis ensuite je passerai directement au verset 13. Les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Akan, fils de Carni, petit-fils de Zabdi, et descendant de Zérak, de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes vers Haï, qui est situé près de Beth-Even, à l'est de Bethel. Il leur dit « Montez explorer le pays ». Ces hommes montèrent explorer Haï. De retour vers Josué, ils lui dirent « Il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. 2 000 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car eux sont en petit nombre. » Ainsi, 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les habitants d'Haï. Les habitants d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes, et ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shéarim, et ils les battirent à la descente. Le peuple perdit courage, et ils se liquéfièrent. Je passe donc au verset 13. Lève-toi, dit le Seigneur à Josué. Consacre le peuple. Tu ordonneras, consacrez-vous pour demain, car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a un objet voué à la destruction au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras plus résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous l'ayez enlevé du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin par tribu, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera clan par clan. Le clan que désignera l'Éternel s'approchera famille par famille, puis la famille que désignera l'Éternel s'approchera homme par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris des biens voués à la destruction sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient pour avoir violé l'alliance de l'Éternel et commis un acte odieux en Israël. Josué se leva de bon matin. Il fit appliquer Israël par tribu, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les clans de Juda et le clan de Zérach fut désigné. Il fit approcher le clan de Zérach famille par famille et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la famille de Zabdi homme par homme et Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérach de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et il rend lui hommage. Dis-moi ce que tu as fait, ne me le cache pas. » Akan répondit à Josué, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un bon menton de chinéar, 200 pièces d'argent et un lingot d'or de près de 600 grammes. J'en ai eu envie et je les ai pris. Ils sont cachés dans l'alter de ma tente et l'argent est dessous. » Josué envoya des hommes qui coururent à la tente. Les objets étaient bien cachés dans la tente d'Akan et l'argent était bien en dessous. Ils les prirent dans la tente, les apportèrent à Josué et tous les Israélites les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zirak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué lui dit, « Pourquoi as-tu causé notre malheur ? L'Éternel causera ton malheur aujourd'hui. » Et tout Israël lapida Akan. On les brûla au feu, on les lapida, et on éleva sur Akan un grand tas de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. L'Éternel renonça alors à son ardente colère. C'est à cause de cet événement que l'on a appelé jusqu'à présent cet endroit vallée d'Akor. Je vais lire maintenant un autre passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Passage très connu. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Le passage que j'ai lu avec vous dans le livre de Josué se situe après un épisode que l'on connaît tous, parce qu'il est très connu, après la victoire de Jéricho. Josué, avec le peuple d'Israël, est entré dans le pays promis. La première ville qu'il a rencontrée devant lui, c'était Jéricho. Et nous savons tous, je ne peux pas en parler parce que ce serait trop long, a remporté une victoire éclatante sur Jéricho. Il faut dire que Josué était porteur d'une immense promesse que je vais relire au chapitre 1 donc, de Josué. Je ne te délaisserai pas, dit Dieu à Josué. Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras le peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et la nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Si ça, ce n'est pas une promesse, c'est que je ne comprends pas grand-chose. Il y a une promesse de Dieu de soutien à Josué comme on en rencontre peu ailleurs. Et pourtant, voilà que Josué, après sa victoire formidable sur Jéricho, tombe sur un os. Il envoie 3 000 hommes à Haï. Et voilà qu'il subit une cuisante défaite. Et le peuple est complètement désorienté. Que s'est-il donc passé? Est-ce qu'à Haï, il y avait un adversaire puissant? La parole de Dieu dit exactement le contraire. La preuve, c'est que Josué lui-même n'avait estimé qu'il n'était pas nécessaire d'envoyer tout le peuple, et dit 3 000 hommes suffiront, parce que Haï n'est pas fort. Et pourtant, la ville d'Haï a battu à plate couture à les hommes de Josué qui étaient partis à l'assaut de la ville. Alors pourquoi? Il faut quand même que nous réfléchissions. La raison, elle est pourtant toute simple. C'est la désobéissance d'un des hommes du peuple qui s'appelait Akan. Mais je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu à ce que Akan avait fait. Est-ce qu'il avait fait quelque chose de si abominable que ça? Est-ce que Akan avait été un assassin? Non. Il ne dit pas ça du tout. Est-ce que Achan était un homosexuel? Rien ne permet de dire une chose pareille. Est-ce que Achan était quelqu'un qui avait commis une abomination sur le plan du sexe? Rien ne nous permet de dire ça. Est-ce que Achan avait fait un pillage? Est-ce qu'il avait volé quelqu'un? Est-ce qu'il avait pris la femme de quelqu'un? Non. Qu'est-ce qu'il a fait, Achan? On dit ceci, il a vu un manteau du Shinéar qui lui a plu. Et puis, il a vu des pièces d'or. Des pièces d'argent, pardon, pour être précis. Puis, il a vu un lingot. Et c'est vrai que Dieu avait dit que ces choses-là étaient débrouées par interdit et qu'il fallait les brûler. Alors, Achan a dit simplement ceci, c'est quand même bête. Ben, un beau manteau. Ma femme serait quand même ravie de l'avoir. Puis l'argent, quand même. Mettre à la poubelle, le brûler, c'est quand même bête, c'est quand même ridicule. Alors bon, ben, plutôt que de le mettre au feu, ben, moi, je vais le prendre. Vous savez, hein, ça m'arrive quelquefois d'aller à la déchetterie. Hein. À la déchetterie, je vais mettre des choses à la déchetterie, et puis je m'aperçois que finalement, il y a des gens qui récupèrent. Ben, c'est ce qu'il a fait. Hein. C'est ce qu'il a fait à Achan. Hein. Il a dit quand même, c'est quand même bête hein, de voir ces choses-là hein, qui ont de la valeur à aller au feu. Ben, moi, je vais les prendre. Je vous pose simplement la question. Est-ce que vous, vous auriez une attitude vraiment différente de celle d'Achan?
Non.
C'est pas sûr. Hein. Si je vais à la déchetterie des nains et que je vois un costume magnifique qui m'irait, bah, peut-être que je ne laisserai pas la déchetterie. Non. Je pense qu'il y en a beaucoup qui réagiraient comme Achan. Bon, ce que je veux vous montrer, c'est qu'aux yeux du monde et à nos propres yeux, Achan n'a pas fait quelque chose d'absolument abominable. Le seul problème, c'est que ces choses qu'il a faites, Dieu avait expressément dit qu'il ne fallait pas le faire. C'est ça le problème. C'est pas que ce qu'il a fait était vraiment odieux, mais c'est ce qui est... Le problème, c'est qu'il a désobéi à Dieu. Le problème, c'est que nous avons des conceptions. Mais Dieu n'a rien à faire de nos conceptions. Dieu veut que nous lui obéissions, veut que nous lui soyons fidèles. Et nous obéissons à nos conceptions. Nous avons des conceptions et nous appliquons nos conceptions. Je suis frappé quand même quelquefois, et j'ai déjà eu l'expérience, hein, des chrétiens se posent des questions à propos de sujets qui sont un peu embarrassants. Va voir un pasteur ou un homme de Dieu. Mais le pasteur ou l'homme de Dieu ne dit pas quelque chose qui va dans le sens de ce qu'ils attendent. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en voir un autre. Et si le second ne dit toujours pas ce qu'ils attendent qu'ils disent, ils vont en voir un troisième, voire même un quatrième. Et enfin, ils trouvent le pasteur ou le responsable d'église qui, enfin, va leur dire ce qu'ils attendent pour justifier leur façon de faire. Leur idole, c'est leur conception. Ce qu'ils cherchent, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais ce qu'ils cherchent, c'est l'approbation de l'autorité de l'Église. Attention. Si un pasteur, quel qu'il soit, dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, ce qu'il dit n'a aucune valeur. Quand je paraîtrai devant le tribunal de Dieu, le pasteur qui m'a conduit dans des voies qui ne sont pas selon la parole de Dieu ne pourra pas dire « Seigneur, il n'y a pas de problème ». C'est Dieu qui va décider si je rentrerai dans le royaume, dans le pays promis ou pas. C'est pas le pasteur. Vous comprenez? Faisons attention. Donc, ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas les convictions. Bien entendu, si je reviens au problème d'Achan, s'il avait fait quelque chose d'horrible, tout le monde aurait été d'accord hein, pour dire ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais ce que Achan a fait n'était pas si terrible que ça. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a simplement pris un manteau et des pièces d'or qui étaient destinées au feu. C'est tout. Donc c'est quelque chose qui ne nous trouble pas outre mesure. Ce sont des choses qui éventuellement nous aurions pu faire nous-mêmes, avec nos propres conceptions. Mais le Seigneur dit, vos voix ne sont pas mes voix, mes pensées ne sont pas vos pensées, et j'en ai rien à secouer de vos convictions. Ce que j'attends de vous, c'est que vous écoutiez ma parole et que vous la respectiez. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors, à ce moment-là, vous pourrez demander ce que vous voudrez. Et ça vous sera accordé. Les convictions, c'est « moi, je dis que ». « Moi, je dis que ». Mais je dirais, on n'en a rien à cirer de ce que tu dis. Moi, c'est ce qui m'importe, c'est ce que Dieu dit. Quelquefois, on discute dans les églises. Bon, quel est notre point de vue sur les homosexuels? Quel est notre point de vue sur le concubinage? Quel est notre point de vue sur l'avortement? Quel est notre point de vue sur l'euthanasie? Il y a des uns et des autres qui ont des points de vue différents là-dessus. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu dit de la question. Le reste, excusez-moi, mais on s'en fout. On s'en fout. Parce que si ton point de vue n'est pas celui de Dieu, ben tu as tort. Quoi que tu penses, quoi que tu dises. Hein, et Dieu ne changera pas, il est toujours le même. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Qu'est-ce que ça veut dire, le Seigneur est un? Moi, j'ai réfléchi un petit peu à ce que ça veut dire aussi. C'est que quand j'écoute Jésus, il ne dit pas autre chose que ce que dit le Père. Et quand, si je suis sensible au Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne dit pas autre chose que ce que Jésus dit. Ils disent la même chose tous les trois. Et quand Jésus dit aussi, je te prie Seigneur pour qu'ils soient un, bon c'est vrai qu'on peut dire être un ensemble, mais toi aussi sois un en toi-même, c'est-à-dire ne sois pas celui qui dit quelque chose aujourd'hui et qui dit autre chose le lendemain. Ne sois pas celui qui tient un discours à l'Église et qui tient un autre discours aussitôt qu'il est arrivé chez lui. Sois un. Est-ce que tu es un? Est-ce que ton discours avec les gens de l'extérieur est le même que celui que tu as avec les chrétiens? Est-ce que ton comportement à l'Église est le même que le comportement que tu as chez toi ou au travail? C'est la question que tu dois te poser. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas un, tu es double. À l'Église, tu montres une facette. Et au travail ou ailleurs, t'en montres une autre. Le Seigneur dit, arrête, arrête. Le Seigneur prie pour que nous soyons un. Peut-être que c'est pas souvent qu'on commente ce verset-là dans ce sens-là. Hein. On parle de la communion entre frères et sœurs, mais soyez un. Hein. Ça veut dire peut-être autre chose. La parole de Dieu, il faut l'entendre. Mais, comme le dit le prophète populaire, il n'y a pas meilleur sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alors, comment j'entends? Pourquoi est-ce si difficile pour moi d'entendre la parole de Dieu? Il y a toujours un adversaire qui dit, et ça, il a commencé à le faire dès le commencement dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a vraiment dit que? Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il fallait mettre au feu le manteau de Shinéar? Est-ce que Dieu a vraiment dit que les pièces d'argent, tu ne devais pas les prendre et que tu devais les laisser aller au feu? Je sais bien que Dieu me dit de ne pas commettre l'adultère. Ça, d'accord, on est d'accord. Mais le manteau de Shinéar, quand même. Quand même. Ben oui. Mais il y a un problème. Justement, c'est la parole de Dieu. Soyez saints, dit le Seigneur, car je suis saint. Autre chose aussi, hein, la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Vous savez qu'actuellement, c'est l'actualité. Nous venons d'élire un président de la République. Rassurez-vous, je ne vais pas faire de politique. Je ne vais pas dire que si vous avez tort ou raison de voter pour Emmanuel Macron ou pour voter pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas mon problème. Mais ceci étant dit, que dit la parole de Dieu ? Elle dit de prier pour les autorités. Quand Jésus s'adresse à Pilate, Pilate lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire lapider ? Que lui répond Jésus ? C'est vrai, mais tout le pouvoir que tu as, c'est à Dieu que tu le dois. D'accord ? Bon, donc notre responsabilité maintenant, que nous ayons voté ou pas pour l'actuel président de la République, notre rôle, c'est de prier pour lui, pour que le pays marche bien. Il y a un piège qu'on pourrait nous donner, parce qu'il y a tellement de gens qui sont persuadés que leurs convictions, et particulièrement leurs convictions politiques, sont bonnes, qu'ils en viendraient à souhaiter que le pays croule pour pouvoir dire « Vous voyez que j'avais raison qu'il ne fallait pas voter pour lui ». Vous savez, si vous faites ça, vous attirez la malédiction sur le pays. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Prions pour que le pays s'en sorte. Prions pour qu'il y ait de moins en moins de chômage. Prions pour que les dettes diminuent. Prions pour que les choses aillent mieux. Pour ça, le président de la République, soyons clairs, hein, si ça avait été Marine Le Pen qui avait été élue, j'aurais dit la même chose. Hein. Ce n'est pas le problème. Hein. Je ne suis pas en train de faire de la propagande pour qui que ce soit. Mais à partir du moment où il est président de la République, il est celui pour qui nous devons prier, pour le bien du pays et pour le nôtre. Amen. Ah, je crois que ça, c'est la volonté de Dieu. Alors, de mettre une avalanche de mauvaises choses sur son dos, ou de colporter quelquefois des mensonges d'ailleurs, c'est certainement pas faire la volonté de Dieu, et Dieu vous met en garde contre ça. Je vous le dis, hein, il vous met en garde contre ça. Ah, il faut prier pour les autorités. Nous avons un maire FN. C'est vrai. Et alors, nous prions pour lui. On l'a même reçu ici. Nous avons maintenant Emmanuel Macron comme président de la République. Nous prions pour lui. Bon, ce n'est pas la même étiquette politique, bien sûr. Et alors ? Et alors ? Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Il faut prier pour lui. Et puis, il y a autre chose que j'aimerais dire aussi. Vous voyez, dans ce que je viens de lire dans le livre de Josué, qui était le chef du peuple d'Israël ? Qui était-il ? Josué. Est-ce que Josué était un mauvais chef ? Non. Au contraire, il était même celui qui était vraiment loin du Seigneur. C'était celui qui avait une promesse du Seigneur. Et pourtant, il a subi une profonde défaite. À cause de qui ? À cause d'un petit bonhomme qui s'appelait Achan. Je veux dire que par là, c'est que si le pays ne marche pas, ce n'est pas forcément toujours à cause du dirigeant suprême qui est en haut. On peut quelquefois avoir notre propre responsabilité. Et vous savez, par exemple, quand on voit l'entretien qu'Abraham a eu avec Dieu à propos de Sodome, qu'est-ce qu'il est dit ? Si Dieu avait trouvé quelque juste dans la ville de Sodome, il aurait épargné Sodome. On est bien d'accord. Même chose pour nous, la France. Si Dieu trouve en France quelques personnes, quelques frères qui intercèdent pour le pays et qui se comportent comme le Seigneur attend, eh bien, il aura pitié de ce pays. Et ce pays, qui est la France et que nous aimons, s'en sortira. On a une faculté aussi humaine à reporter toujours la responsabilité sur quelqu'un. Si ça ne marche pas, c'est parce que notre maire n'est pas bon. C'est parce que notre gouvernement n'est pas bon. Et le politicien, actuellement, vous le savez, je ne fais pas de politique encore une fois, mais je dis simplement ce qui est. Ce n'est pas la faute du gouvernement français. C'est à cause de Bruxelles. C'est à cause de l'Europe. Bref, c'est jamais notre faute. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Arrive un moment... Si le peuple d'Israël a subi une défaite à Haï, c'était la faute de qui ? C'était la faute d'un petit bonhomme qui s'appelait Achan. D'accord ? Hein. Bon, alors, je veux dire par là, c'est qu'il faut que je me laisse interpeller. J'ai ma propre responsabilité quant au bien, quant à la bonne santé de mon pays. Et ce n'est pas simplement les responsables du gouvernement et le président de la République qui ont cette responsabilité-là. Moi aussi, j'en ai une part. Et si je me conforme, si je déplais profondément à Dieu, eh bien, je peux être une source de malédiction pour mon pays. Est-ce que j'en suis conscient? C'est pas se donner une importance plus grande que je mérite, mais c'est simplement regarder la parole de Dieu telle qu'elle est. Ah, quand c'était pas un personnage important, c'était un petit bonhomme, mais il a désobéi profondément à Dieu et encore en ne faisant pas quelque chose de si horrible que ça, hein, je précise bien, et à cause de ça, ben, le pays a subi une défaite terrible. Le Seigneur nous appelle encore une fois à changer d'attitude. Ce ne sont pas nos conceptions qui importent, c'est notre obéissance à la parole de Dieu. Je peux avoir des conceptions, je peux avoir des idées politiques. Nous n'avons pas tous les mêmes idées politiques ici, je sais très bien. Ce n'est pas le problème. Mais si mes idées politiques priment, passent devant l'obéissance à Dieu, alors je mets ma famille et mon pays en danger. Amen. Est-ce que j'entends ça? Est-ce que je suis prêt à l'entendre? Mais le Seigneur dit ceci quand même. Autant les cieux sont élevés, autant j'éloignerai de vous vos transgressions. Comme mon Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Ce que je viens de dire, cet enseignement, ce n'est pas destiné à des sages et à des intelligents. Ce n'est pas destiné à des gens qui philosophent. Ah, vous savez, les politiciens ou les gens qu'on appelle des intellectuels, ils sont forts pour ça. Ils vont nous faire des discours avec des grandes phrases, avec des subjonctifs à l'imparfait, ça, ils sont forts pour ça. Mais bon... Il y a un moment, le Seigneur nous parle, il parle plus volontiers à ceux qui ont un cœur d'enfant. Parce qu'ils sont prêts à dire « Oui, papa », et puis reste, je laisse tomber. « Oui, papa, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent », dit le Seigneur. Nous sommes au temps de la grâce. Dieu est fidèle pour nous pardonner, mais il veut nous dire quelque chose. Est-ce que je suis capable de l'entendre? Est-ce que je suis capable de l'entendre? Nous sommes au temps de la grâce. Nous ne sommes pas au temps de Jésus. Probablement que Jésus, à ce moment-là, Dieu était plus sévère. Nous, nous sommes lavés par le sang de l'agneau. J'espère en tout cas que nous le sommes. Mais ceci étant dit, nous avons été appelés à autre chose qu'à être des sauvés. Jésus a dit ceci, vous êtes la lumière du monde. Être la lumière du monde, c'est autre chose que d'être quelqu'un qui est sauvé. C'est autre chose que quelqu'un qui est sûr de passer l'éternité dans le royaume de Dieu. La lumière. Est-ce que je suis la lumière du monde? Est-ce que je permets à la lumière de Dieu, parce que c'est la lumière de Dieu, il ne faut pas s'y tromper, de transiter à travers moi. Est-ce que je suis un bon canal? Il ne faut pas que la lumière soit polluée. Si la lumière est polluée, elle n'éclaire pas grand monde. Vous savez pourquoi elle est polluée? Une de bonnes explications, c'est aussi la parabole de la poutre et de la paille. C'est que beaucoup des chrétiens, malheureusement, s'occupent beaucoup plus de la paille qui est dans l'œil de leur frère que d'enlever la poutre qui est dans le leur. Et c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas écoutés. Et c'est la raison pour laquelle la lumière ne passe pas bien à travers le canal qu'ils sont. Tu dis de faire ceci, tu dis de faire cela, mais toi, quand on voit comment tu te comportes, quand on voit ce que tu dis, quand on voit ce que tu fais, j'ai du mal quand même à t'entendre. J'ai du mal à te suivre. Ce n'est pas qu'il ne faille pas enlever la paille qui est dans l'œil de notre frère. Bien entendu, elle n'est pas bien la paille qui est dans l'œil de mon frère. Mais si je traîne moi-même une poutre, je ne suis pas celui qui est habilité à le lui dire et à l'enlever. Il faut que la lumière que je suis appelé à être ne soit pas polluée. Bien sûr, personne d'entre vous ne sera jamais, disons, parfait. C'est vrai. Mais au moins qu'il soit suffisamment humble pour le reconnaître et ne pas considérer que son propre péché n'est pas grave. Si j'ai cette mentalité-là, si je suis rempli d'amour et de compassion comme Jésus l'est, alors je trouverai les mots pour aller enlever la paille qui gêne l'œil de mon frère. Dans les Colossiens, il est dit que votre parole soit assaisonnée de grâce et de sel, afin que vous sachiez comment il faut parler à chacun. Tu le reprendras, mais tu le reprendras avec douceur. Tu le reprendras avec amour. Tu le reprendras avec compassion. Et il comprendra que le Seigneur se sert de toi pour lui montrer quelque chose qui va lui faire du bien, qui va le bénir, qui va l'aider à se relever, voire même à être guéri s'il est malade. Mais si je cherche à vendre ma camelote, si je cherche à me présenter moi-même, si je ne suis pas prêt à reconnaître moi-même que je suis pécheur, alors la lumière que j'essaye de faire passer, elle n'a aucun effet. Seigneur, je te prie, pour que je sois capable aussi moi-même de me rendre compte dans quel domaine je pêche. Je te prie, Seigneur, pour que je te demande pardon pour ces choses. Vous savez, il y a une chose, on voudrait savoir quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, quelquefois, elle est simple. Dans Malachie, par exemple, il est dit « Apportez à la maison du Seigneur toutes les dîmes, et vous verrez si je n'accomplis pas, que je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous faire une prédication sur les finances. Parce que Jésus lui-même dit aussi, si au moment où tu viens porter ton offrande à l'autel, tu te rends compte que ton frère a quelque chose que contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec lui. C'est ça qui importe. En clair, ça veut dire quoi ? Ben, si tu n'es pas prêt à aller faire ce qu'il faut pour te réconcilier avec ton frère, ben, ton offrande, tu peux te la garder. Je te dis ça comme ça, mais c'est la vérité. Et même les œuvres que tu peux faire soi-disant pour le Seigneur, tu peux te les garder. Le Seigneur, vous savez, il y a une parole de Dieu que nous connaissons très bien et que dans toutes les églises on connaît. C'est la parole, la prière du Notre Père. Mais dans la prière de Notre Père, il est dit quoi après ? Si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensés, moi non plus, je ne vous pardonnerai pas. Or ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, on s'arrête toujours. Bon, bref, vous connaissez la parole, je vais pas le dire moi-même. Mais c'est dire à quel point c'est important. Mais nous, qu'on considérons comme à quand que ça, c'est pas trop grave. Ben si, c'est grave. Si ton frère a quelque chose contre toi, ou si toi, tu as quelque chose contre ton frère, ce qui est encore pire, eh ben alors, laisse un petit peu ce que tu es en train de perdre. Vas-y, parce que c'est ce que je te demande en priorité. C'est pas la peine, après, de prier, Seigneur, Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Arrête, dit Seigneur. Je t'ai dit ce qu'il fallait faire. Ne tourne pas autour du pot. Ne cherche pas des excuses. Ne botte pas en touche. Mais si tu écoutes ce que j'ai dit, que tu te laisses transformer par toi, alors la promesse de Dieu est pour toi. Dieu est capable de te faire la même promesse que celle qu'il a fait à Josué. Tout ce que tu entreprendras réussira. Amen. Mais si tu t'obstiens à dire que tu as raison, quoi qu'on puisse te dire, n'acceptes pas qu'on te puisse te faire une remarque parce que tu trouves toujours indigne celui qui te l'a fait. Toi, tu es tellement bien que... Hein. Alors là, tu as un problème. Demeurez en moi, dit le Seigneur, et je demeurerai en vous. J'ai commencé à lire ça, je verrai vous relire et ça sera la fin de ma prédication. C'est Jean 15. C'est moi qui suis le cèpe. Autrement dit, c'est personne d'autre. Mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Mais tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples.